faiblesse la police, gens que nous capable dit l'état lui-même n'est pas bay zone frontalière yo régler rien pour yo, c'est ça qui fait que au partant de virer tourner et bien la police ta lui a fait coup de filet, mais c'est et une commune lui-même qui toujours gagne gens de trafic et ça yo qui a fait la dernière mois.
Napedou, merci et Sadraculis, et bon week-end et à samedi prochain.
Merci Raymond, merci à tous les amis auditeurs. Bonne émission tout le monde.
Alors, il faut qu'on dise que au moment que nous parlons là, l'émission samedi midi inter est en direct sur Radio Jacquimel. Alors, l'émission samedi midi inter est en onde en direct sur la Radio Jacquimel. N'a pas dit tous les amis qui écoutent nous et merci, n'a pas essayé, ouais. Si nous sommes capables de rentrer en contact avec Jacques Mel, et ce n'est pas possible. Alors, il faut qu'on dise que gagner l'autre monde qui est venu là. Nous attendons toujours l'appel du député de Vio. Alors, comme moi, dis-nous, qui actuellement là, Lina Buffet, c'est quand même important pour lui parce que les élections, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt et surtout, on nous dit que jouette là la prête. Et du côté de Montréal-Nord, faut qu'on dise nous que gagne une grosse pointure et qui pourra la représenter Québec solidaire. Alors, nous voyons que faut qu'en et Mme Anglade lève pial wow. Parce que bagayo li pa douce les noue quantité en député qui quitté et parti libéral, eh bien nous voyons que gagnent deux formations politiques là que nous capable dire que la situation li pa paraît vraiment belle pour le parti libéral et pour le parti pour le parti, en fait, le nationaliste, et Parti québécois. Alors, on a fait une petite pause, et puis on a retourné avec l'autre information. On a rappelé nous, et Victor Henriquez n'est pas avec nous, on a bien Dr. Harrison Ernest également, Dr. Lalim et Dr. Joël Desrosiers appant avec nous également. Restez branchés, vous êtes sur la bonne longueur d'onde. Nous sommes en direct avec la radio Jacquimel. We'll be right back.
jeunesse, mais aujourd'hui tout est gâté. L'armée est divisée, les étudiants sont divisés, la société est divisée, même nos maires au marché sont divisés.
Tikenja, mon pays va mal, mon pays va mal. Vous allez l'entendre très souvent et nos pays vont mal, hein? Pas seulement et en Haïti, les États-Unis avec la question d'armes à feu. Et ça fait pas longtemps, une école de jeunes, 22 personnes ont été en fait criblées de balles par des assassins. Un jeune de 18 ans. Alors, j'ai avec moi et mon ami Victor Henriquez. Bonjour, c'est toujours avec grand plaisir qu'on te reçoit chez toi à l'émission Samedi Midi Inter, mon cher.
Bonjour, mon ami Raymond. Comment ça va?
Eh bien, ça va très bien. Ça va très bien avec tout ce qui se passe au Canada, ailleurs. Il faut pas non plus, cette semaine, c'était la fête de la reine Élisabeth II, 70 ans de règne. Alors, c'est toute une semaine pour célébrer cet événement extraordinaire, mon cher.
C'est une semaine de célébration pour l'Angleterre et ça fait toujours partie de ces belles semaines pour la monarchie. La semaine dernière, rappelons-le, Prince Charles, dans le cadre du jubilé, est venu au Canada également. Donc, c'est une série de célébrations qui se passent. Probablement le dernier jubilé de la reine, hein, il faut se rappeler qu'Élisabeth II est quand même très, très âgée. Et c'est toujours particulier parce qu'on est tous admiratifs. On a tous une curiosité face à ces événements-là. Et en même temps, est-ce qu'on peut pas se demander si la monarchie n'est pas justement très dépassée? C'est là où je t'amène à des questionnements, mais je trouvais ça intéressant. Puis oui, la planète s'est tournée pour une femme qui, rappelons-la, a quand même une influence énorme sur, dans le fond, le dernier siècle et un peu plus.
Alors, je pense que c'est bon de souligner la présence de Harry et son épouse Meghan lors de cette célébration.
Oui, je pense que oui. Puis justement, ça nous rappelle que la monarchie reste très forte en Angleterre. Hein. Lorsque le prince Harry et Meghan sont partis pour les États-Unis, il y avait plusieurs spécialistes qui se demandaient si c'était pas là une brèche dans la stabilité même de la monarchie en Angleterre. Et on voit bien que ça ne l'a pas été. On voit bien que justement, bon, Harry et Meghan étaient là. Et il y a quand même une solidarité assez forte derrière la monarchie encore en Angleterre. Et je vous dirais que même au Canada et en Australie ou d'autres pays du Commonwealth, on semble s'en tenir pas mal avec ça. Donc, je vois pas de remise en question de la monarchie à ce moment-ci. Et pourtant, lorsque Harry et Meghan sont partis, ça a fait partie des craintes des principaux monarchistes anglais.
Alors, il faut parler du Royaume-Uni, hein?
Tout à fait, tout à fait.
Et pendant
Principaux du Royaume-Uni.
cette semaine de célébration, c'est l'évêque de Londres, Sarah, qui était au service d'action de grâce du jubilé et de la reine. Et pour une fois, il y a trois anciens premiers ministres qui étaient présents. Et parmi lesquels, on peut parler de l'actuel premier ministre très contesté. Et Boris Johnson et Tony Blair étaient là également.
Et c'est important parce que ça nous rappelle une chose, Raymond. Malgré tout ce qu'on peut dire à l'extérieur, pour les Anglais, la monarchie est essentielle. Pour les Britanniques, excuse-moi mon erreur, pour les Britanniques, la monarchie est essentielle. Ce qui veut dire que pour les politiciens britanniques, la monarchie est également essentielle. Et c'est quelque chose qui doit être assez particulier, justement, de prendre en considération constamment un pouvoir total et au-dessus du Premier ministre. Regarde dans notre juridiction à nous, je veux dire, il n'y a pas de pouvoir plus grand que celui de Justin Trudeau. Oui, sur papier, la reine peut intervenir, sur papier, la gouverneure peut le faire, mais dans la réalité, il n'y en a pas. Alors qu'en Angleterre, il faut quand même être conscient que ces politiciens-là ont tous eu à gérer les positions, la tradition et la vision d'une monarchie qui reste au-dessus d'eux, quoi qu'ils fassent.
Il n'y a pas longtemps de cela, on parlait de la course à la chefferie du Parti conservateur, où j'avais reçu l'ancien premier ministre du Québec, qui fait partie de cette course, en la personne de Jean Charest, que tu connaissais très bien, que tu connais très
Oui,
bien.
tout à fait.
Hein? Et ensuite, il y a les élections à Toronto, et en fait en Ontario. Doug Ford a obtenu un deuxième mandat très fort.
Très fort, et on revient à cette tendance de réélire des gouvernements qui ont traversé la pandémie. Il faut dire aussi que l'opposition était très divisée. Quand on regarde le résultat du vote, moi, c'est ce qui m'a sauté aux yeux, Raymond. Encore une fois, cette division entre les libéraux puis le NPD en Ontario, qui, à ce moment-ci, empêche les deux partis de jouer un rôle réel de potentiel parti au pouvoir. Parce qu'à partir du moment où le NPD dépasse le 20%, il empêche les libéraux d'atteindre le pouvoir de façon automatique. Et c'est la même chose pour les libéraux lorsqu'ils dépassent le 20%. Donc, on sait, l'Ontario s'est divisé. On le voit à chaque élection fédérale. Le fameux GTA, le Grand Toronto Area, qui décide à peu près de toutes les élections fédérales, le 905, et les régions plus éloignées de l'Ontario qui sont très conservatrices, le 905 qui est rendu très libéral, NPD. Cette division-là fait que Doug Ford a eu littéralement un walk in the park dans cette élection-ci et l'a remporté avec un point de plus que ses sondages avaient prédit. Des sondages qui, il faut le dire, Raymond, ont été extrêmement proches du résultat. Et faut le dire parce qu'on a eu plusieurs années où est-ce qu'on a critiqué les sondages parce qu'on disait qu'ils étaient loin des résultats réels. Et depuis quelques élections, on revient avec des sondages qui sont dans le mille. Donc, je pense que les sondages se sont ajustés. Puis c'est important parce que dans une élection, un sondage, ça a de l'importance, surtout à l'aube d'une élection provinciale au Québec. C'est important.
Alors, ce qui
Mandat
est
très fort pour
important,
son deuxième mandat.
c'est très rare de voir ça,
Allô?
deux chefs de parti qui sont démissionnés en même temps.
Oui, c'est très rare, puis en même temps, je pense que c'est nécessaire, mais moi, j'irais plus loin, Raymond. L'Ontario, les politiciens ontariens doivent se questionner à savoir si la division de la centre-gauche, comme elle l'est en ce moment, doit perdurer, parce qu'ils ont 4 ans pour trouver une solution. Sinon, je peux vous te le prévoir tout de suite, Raymond, le prochain gouvernement sera conservateur. C'est à cause de divisions comme celle-là qu'on maintient au pouvoir des partis, parce que on divise une portion de la population qui, ensemble, pourrait prendre le pouvoir à tout moment.
Alors, quand on regarde un parti qui était en élection avec 70 députés, qui est passé maintenant à 83 députés, c'est quand même fort.
C'est très fort. Et ça nous démontre aussi que la pandémie, malgré ce qu'on pouvait penser, vous savez, c'est rare que les gouvernements soient réélus après de grandes crises. Une des rares exceptions au Québec, ça avait été Lucien Bouchard après la crise du verglas. Mais Pauline Marois a perdu son élection après l'acte mégantique. Philippe Couillard a perdu son élection après les attentats à Québec. Et on disait toujours que c'était très difficile d'être réélu dans une crise. Cependant, la crise, la pandémie a été tellement longue qu'elle a aussi permis, je pense que quelque part, elle a aussi donné une espèce de fuit-passe aux politiciens. On l'avait vu dans des élections précédentes où les gens ont pas nécessairement le goût de changer à ce moment-ci. Et je le dis souvent quand je parle de politique avec toi et avec les gens, Raymond, avant de choisir un nouveau gouvernement, il faut vouloir se débarrasser du gouvernement qu'on a en place. Et à partir du moment où Doug Ford a réussi à se défaire de ce désir de se débarrasser du gouvernement, le reste n'est qu'une question de chiffres. Et à ce moment-là, 70-83, ou dans lequel M. Legault, ce sera 75-95 ou 105 députés, c'est plus nécessairement ça l'enjeu. C'est que tu sais que tu as accroché le pouvoir parce que tu as réussi à implanter le désir de poursuivre l'aventure avec un gouvernement. Et c'est là où les oppositions ont erré dans cette élection d'automne.
Moi, j'adore ça, un stratège en communication. Ça me fait penser à Martine Saint-Victor III et à Rolf Fortin. Vous n'avez pas besoin de faire un long discours, en fait, hein, pour parler de l'actualité politique. Et cette semaine, ça a été une semaine, je dirais, et très bouleversée à Québec. Et au moment qu'on a intronisé l'ancien premier ministre Jacques Parizeau, un économiste hors pair, et qui avait même à côté de lui comme conseiller un Haïtien, hein, qui enseignait à l'Université de Montréal. Et on peut voir ce qui arrive, hein, par exemple, en Lucien Bouchard, qui a mis en fait son grain de sel avec la dégringolade du Parti québécois. Et si la tendance se maintient, je peux dire que le Parti québécois, ça va être catastrophique. Et on peut remarquer, par exemple, non seulement on a intronisé Jacques Parizeau, on peut voir, par exemple, les images d'un ancien premier ministre que j'aimais beaucoup, Tipoil, hein, René Lévesque.
Exactement, tout à fait. Puis, tu sais, c'était intéressant cette semaine d'avoir M. Parizeau, quel homme extrêmement intelligent, quel grand économiste et quel grand premier ministre pour le Québec. Je veux dire, on n'a pas nécessairement les mêmes idées, ou il y a plein de gens qui n'ont pas les mêmes idées que lui. Cependant, il y a une chose qu'on ne peut pas enlever à M. Parizeau. La première, c'est qu'il se battait pour ce qu'il croyait vraiment. La deuxième, c'est qu'il n'a jamais été une girouette. Et la troisième, c'est qu'il était d'une intelligence énorme. Et il avait la capacité de convaincre et de parler d'économie d'une façon extrêmement crédible. Ce qui, rappelons-le, le Parti québécois n'a jamais été la force du Parti québécois. Le Parti québécois, c'est un parti très social, très, très dans son projet, mais l'économie n'était jamais sa grande force. Et rappelons-le, Jacques Parizeau, avant même le référendum, est allé à Londres, est allé parler aux places financières, est allé à Wall Street. Donc, c'est vraiment un homme d'économie. Ça a été un grand premier ministre et je pense que, et oui, c'est important que tu le rappelles. On a longtemps tenté de dépeindre Jacques Parizeau comme étant un homme qui ne croyait pas à la diversité du peuple québécois, et c'est complètement faux. Jacques Parizeau, le soir du référendum, a exprimé une idée sur le coup de l'émotion, qui, je vais t'avouer, Raymond, moi, m'a toujours inspiré le fait que si un premier ministre considérait que le vote ethnique, comme il l'a appelé de façon très malencontreuse ce soir-là, mais disons, le vote des gens qui venaient d'ailleurs pouvait influencer le destin du pays. Ça voulait quelque part dire que même si tu venais d'ailleurs, tu pouvais avoir une influence ici. Puis moi, ça m'a beaucoup inspiré personnellement dans mon désir de faire de la politique. Parce que je trouve qu'il y a toujours deux angles, la médaille. Tu sais, une déclaration a toujours deux angles. Moi, elle m'a beaucoup inspiré parce que je trouvais que c'était un message. Le reste, l'émotion, la défaite, c'est jamais facile. Alors, je suis content que cette semaine, on ait parlé d'autre chose que de ça. Et malheureusement, cette semaine a très mal fini par le PQ parce que oui, elle avait bien commencé avec l'hommage à Jacques Parizeau. En même temps, Lucien Bouchard qui avait dit « Le PQ n'est plus le seul véhicule pour la souveraineté ». Et juste pour être sûr de mettre le dernier clou dans le cercueil, vendredi, Bernard Drainville, symbole du Parti québécois, rappelons-le, c'était lui la Charte des valeurs. C'était lui qui avait ce projet-là, candidat à chefferie du Parti québécois, qui devient candidat pour la CAQ probablement dans Lévis. Et ça, pour moi, Raymond, c'est la démonstration que le Parti québécois va rester, selon moi, le parti d'un député ou de deux. On a Pascal Bérubé et Martin Ouellet, qui sont deux députés extraordinaires, qui, selon moi, sont les seuls à pouvoir survivre à cette vague. Mais je pense que le PQ ne fera pas de grands résultats à la prochaine élection. Et regardez comment il perd des symboles. On a vu Caroline Saint-Hilaire, ancienne députée du Bloc à Longueuil, candidate de la CAQ à Sherbrooke. Monsieur Drainville, candidat de la CAQ à Lévis. Et ce que ça va amener, par exemple, c'est que Monsieur Legault devra faire attention. Il a besoin maintenant de quelques libéraux qui s'en viennent de son côté, parce que dans une coalition, la balance est importante. Et c'est ce qui va permettre à Monsieur Legault d'éviter d'avoir l'air d'un rebranding du Parti québécois plutôt que d'une coalition qui regroupe des gens de différents horizons. Ça va être intéressant de voir dans les candidatures. Maintenant, je pense qu'on a annoncé quelques pays.
Alors,
plus fédéraliste dans les prochaines semaines.
Oui, c'est très important de rappeler également l'affaire de l'ancien président. Je pourrais dire qu'il est encore président de l'Assemblée nationale. Alors, c'est Bernard Drainville qui est toute une surprise.
Bernard Drainville, c'est, comme je disais, Raymond, c'est la surprise des surprises. Ben, une surprise. C'est pas une surprise parce que, on va se le dire, les conseillers les plus proches de Bernard Drainville travaillaient au cabinet du premier ministre. Il pensait peut-être à un retour en politique. Le fils de M. Drainville, d'ailleurs, est attaché de presse depuis récemment de Lionel Carman, ministre délégué à la Santé. Donc, les liens étaient déjà là. M. Drainville reste à Québec, à Saint-Augustin-des-Morts. Donc, la région de Québec, c'était très naturel. Je vois pas de surprise. Cependant, le message est fort. Le message est fort pour les nationalistes. Je reviens, c'est le père de la Charte des valeurs. Et le message est fort aussi pour le Parti québécois. Ils ne sont pas capables d'attirer des gens de cet acabit-là. Et ils ont perdu Marie-Victorin. Ils perdent Bernard Drainville. D'après moi, à la prochaine élection, ils vont perdre pas mal tous les comtés qu'il leur reste. Pascal Bérubé va probablement se sauver parce que Matane vote pour Pascal Bérubé avant de voter pour quelque parti que ce soit. Mais pour les autres, PSPP a une énorme côte à remonter. D'ailleurs, il donnait des entrevues hier soir. Puis vous savez, Raymond, quand un chef de parti donne des entrevues le vendredi soir, c'est parce que la soupe est chaude, pas à peu près.
Et moi, la question que je me pose, qu'est-ce qui est arrivé avec le président de l'Assemblée nationale avec l'arrivée de Bernard Drainville? Il y a quelque chose. Peut-être, et on ne sait pas dans les coulisses et publiquement, mais dans les coulisses, il y a quelque chose qui s'est passé. Il faut se poser des questions.
On peut s'en poser, mais tu vois, je pense que je vais amener un point à ta réflexion, Raymond, c'est que il y a quelque chose qui a changé depuis quelques années, puis je ne suis pas sûr qu'on a pris, je pense que la première élection, on prend conscience de ça. Avant, quel que soit le moment où tu quittais, dans un mandat, tu avais droit à ta prime. Donc, tu avais droit à un an de salaire avec tes vacances et tout ça. Ça donnait à peu près un an de salaire par période de 4 ans que tu avais travaillé au gouvernement. C'est le maximum que tu pouvais recevoir, c'était un an. Donc, tu avais ta prime de député, ce qui faisait que quel que soit le moment où tu quittais, tu t'assurais d'avoir une période de buffer, de tampon. La loi a changé. Maintenant, si tu quittes entre deux élections et que tu n'as pas de raison médicale importante de quitter, tu perds ta prime de départ. Et la raison pour laquelle je te parle de ça, Raymond, c'est que tu vas voir dans les départs qu'il y a eu, je suis convaincu que ça a eu une influence, parce qu'il y a des gens qui peut-être auraient pu donner 1 ou 2 ans de plus, mais pour qui 4 ans, c'est trop long. Et dans le cas de M. Paradis, je pense que c'est ça. M. Paradis a 76 ans, il aurait eu 70 ans dans 4 ans. Je pense qu'ultimement, oui, la présence de M. Drainville comme candidat fort a probablement joué dans la balance, parce que la question, c'est qui me remplace. Puis quand tu vois la personne qui peut te remplacer, tu te dis, OK, ben peut-être que je suis mieux de partir au lieu de me faire tasser. Mais je pense en même temps qu'il y a des gens qui, à partir d'un certain âge, ont fait une grande carrière. M. Paradis, c'est le faire à l'Assemblée, 2 mandats à l'Assemblée nationale, se disent, ben je vais partir avec ma prime maintenant plutôt que de partir à Bordeaux dans 2 ans, parce que je sais qu'il ne me reste pas une tonne d'énergie à donner.
Alors, c'est toujours un plaisir d'être avec toi, mon cher. Je te souhaite une très bonne fin de semaine. Et comme je le dis, dans ta circonscription, ça va brasser. Surtout avec une candidate de Québec solidaire. Hein?
Ça va brasser dans ma circonscription, ça va brasser à Montréal-Nord, Raymond. Puis je pense qu'il faut le dire, à Montréal-Nord, on a une candidate, on a une députée qui quitte à ce moment-ci.
En effet.
C'est parti pour une course assez serrée. Le Parti libéral, on va voir le choix qu'il devra faire, mais ce choix-là va être essentiel parce que pour moi, Anjou, Montréal-Nord et tous les comtés de l'Est font partie des cibles de la coalition Avenir Québec. Le comté de Verdun également est une cible de Québec solidaire. Le comté d'Outremont est un comté ciblé par la CAQ à Montréal. On a maintenant une véritable course à trois. Est-ce que la CAQ va venir remplacer le PQ sur l'île ou est-ce que la CAQ va venir en plus prendre des comtés libéraux? C'est la question qu'il faudra se poser. Mais oui, on aura une très, très, très belle élection. Et si on ne se reparle pas d'ici le début de l'été, bon été à tous. Parce qu'au mois d'août, préparez-vous à écouter beaucoup, beaucoup de politiciens parler.
C'est sûr qu'on va se parler très souvent d'ici la prochaine élection au Québec.
Avec grand plaisir, Raymond.
Porte-toi
bien. Merci beaucoup. À bientôt.
Alors, Victor Henriques, stratège en communication, un habitué de l'émission Samedi Midi Inter. Nous allons faire une petite pause, là, pour tourner avec le député de la circonscription de Vio, Monsieur Franz Benjamin.
Mais aujourd'hui, tout est gâté. L'armée est divisée. Les étudiants sont divisés. La société est divisée. Même nos maires au marché sont divisés. Oh Lord, mon pays va mal. Mon pays va mal. Mon pays va mal. De mal en mal. Mon pays va mal. Avant, ne parlait pas des chrétiens ni des musulmans. Mais aujourd'hui, ils ont tout gâté. L'armée est divisée. Les étudiants sont divisés. La société est divisée. Même maman au marché sont divisés. La xénophobie appelle l'ivoirité. Ils ont créé les houlets et les olé. Mais mon pays va mal.
Mon pays va mal. Mon pays va mal. De mal à mal. Mon pays va mal.
Pochon na la. On va faire gagner na nyamou.
Du député de la circonscription de Vio, M. Franz Benjamin, qui est actuellement là en pleine activité. Alors, et c'est la journée de son brunch. Il est en campagne. Hein, et on sait que cette campagne électorale ne sera pas facile. Alors, il faut que les candidats et candidates se travaillent très fort.
Le pays va mal.
Alors, il est exactement 13h01. Il faut dire que ce n'est pas facile avec nos invités, qu'il s'agit d'Haïti ou du côté de Montréal. Alors, et nous avons... Oui. Alors, donne-moi une petite minute, là. Je reviens là. Alors, c'est ça. Il faut dire que c'est très facile. Nous allons gagner avec nous, là, le député de la circonscription de Vio, et capable avec nous là, dans deux minutes, l'honorable député de Vio est avec nous. Alors, Franz Benjamin, bonjour, et comment ça va, cher ami?
Bonjour Raymond, bonjour mon cher, et bonjour auditrices et auditeurs de la station.
Alors, ça paraît qu'on est en élection.
Et oui, ça paraît de plus en plus, et on est à la course. Ce matin, c'était le bronze de l'Association libérale de Vio. Pour donner le coup de départ de l'élection de la campagne dans Saint-Michel. Donc déjà, notre planning est fin prêt et la mobilisation commence. Donc nous étions avec environ une centaine de bénévoles ce matin pour amorcer la campagne dans Saint-Michel.
Il faut dire que la circonscription de Vio-Saint-Michel a toujours eu de bons électeurs et électrices.
Effectivement, ce sont des femmes et des hommes, comme je le disais un peu plus tôt ce matin. Et Saint-Michel, c'est une circonscription diversifiée où on retrouve des membres de différentes communautés, plus de 70 communautés qui vivent dans une belle harmonie. C'est une circonscription où on a eu à se battre dans plusieurs enjeux, où on a eu gain de cause pour le développement du quartier, mais c'est pas fini, il nous reste encore beaucoup de choses à accomplir ensemble, et c'est avec les gens de Saint-Michel qu'on va faire ça.
Ce qui est important pour un député ou une députée, en fait, c'est sa présence dans sa circonscription ou bien son comté. Alors, comme on parle pour le Québec, c'est circonscription, et on sait combien et vous avez quand même une popularité pour tout ce que tu fais comme travail dans votre circonscription.
Mais en fait, je te dirais, Raymond, ça fait quand même plusieurs années que je suis au service des gens de Saint-Michel, que je travaille pour les femmes et les hommes de cette circonscription-là. Je me lève le matin, c'est Saint-Michel, je me couche, c'est Saint-Michel, et sans besoin de te dire au courant de la journée. Donc, je suis le porte-parole des gens de Saint-Michel à l'Assemblée nationale au Québec et partout au Québec, c'est ce que je fais. Et j'essaie de le faire au meilleur de mes compétences, au meilleur de mes sensibilités. Et le travail, comme je l'ai dit ce matin, n'est pas que le travail de Franz Benjamin, le travail qui s'amorce pour les prochains mois, les prochaines semaines. C'est le travail de tous les membres de la communauté, c'est le travail de tous les membres de la circonscription, de tous les gens de Saint-Michel. Le député, le candidat ne pourra pas peut-être rencontrer chaque homme, chaque femme de la circonscription, mais cependant, avec l'appui et l'aide de chaque personne, vous connaissez peut-être, vous qui nous écoutez, même si vous n'habitez pas Saint-Michel, mais vous connaissez peut-être des gens, cette élection-ci va être une élection très difficile, ça va être circonscription par circonscription, donc on compte sur chacun de vous, ne sous-estimez pas votre contribution, votre apport, votre vote dans un premier temps. Mais au-delà de votre vote, vous avez aussi une obligation, si vous souhaitez que le Québec soit une société plus inclusive, soit une société plus égalitaire, où on ne divise pas les Québécois les uns contre les autres, vous avez une responsabilité, celle de travailler autour de vous, de convaincre chaque homme et chaque femme autour de vous pour faire en sorte que cela change. Vous avez peut-être en vos mains le pouvoir de faire changer les choses. Ne sous-estimez pas votre apport dans cette élection.
Quand je vois et l'atmosphère qui existe à l'Assemblée nationale, et depuis 1969, je vis en fait au Canada, pour ne pas dire Québec, Montréal, je n'ai jamais vu une telle atmosphère à l'Assemblée nationale où un premier ministre n'a aucun respect pour les partis de l'opposition.
Ah ben écoutez, c'est le constat que nous faisons aussi. C'est un premier ministre qui a tout fait pour diviser les Québécois. Il y a, rappelons-nous, la loi 21 sur la laïcité. Rappelons-nous la loi 96 maintenant par rapport aux anglophones. Et depuis quelques jours, il s'en prend maintenant aux immigrants. Écoutez, je donne l'exemple d'un collègue comme Saul Polo, un gars originaire de Colombie, quand on sait la présence des communautés latino-américaines au Québec, et un gars qui parle français parce que c'est sa langue, il est québécois, et aujourd'hui, quand il prend la parole pour rappeler non seulement la réalité des latino-américains, mais de toutes sortes de communautés qui sont arrivées au Québec, mais qui ont appris le français, et qui demandent, qui exigent et qui réclament ce qui leur est dû, c'est-à-dire le droit de pouvoir parler dans les langues qu'ils veulent quand ils sont chez eux à la maison. Et le premier ministre du Québec, tout ce qu'il trouve de bon à dire, c'est de traiter Sao Paulo d'anecdote. Donc, c'est effectivement, et c'est une atmosphère d'insultes. Et malheureusement, c'est un premier ministre qui ne veut pas gouverner pour tous les Québécois, mais qui a choisi de diviser les Québécois entre ceux qui l'appuient et ceux qui ne l'appuient pas. Or, la responsabilité d'un homme d'État, c'est de diriger pour tous les Québécois, ce qu'il ne fait pas, sans aucun doute.
Et je crois, et en fait, je peux, c'est pas parce que Dominique Anglade, c'est une compatriote, on parle de politique, hein, et je ne prends pas pour un parti comme de l'autre, hein, mais l'irrespect qui existe, hein, entre le premier ministre, hein, et la chef de l'opposition, ça n'a pas de sens. Alors que c'est des gens qui étaient dans la même formation politique.
Effectivement, et d'ailleurs, plusieurs, bien avant Dominique, plusieurs ont qualifié l'attitude de François Legault envers Dominique Anglade en particulier, et envers d'autres députés de l'Assemblée nationale, de paternalistes, d'arrogants. C'est ce qu'on constate au quotidien. Mais notre chef, Dominique Anglade, elle est la choisie. Elle est la choisie, la droiture, elle a choisi la fierté, elle a choisi la verticalité. Elle a choisi de ne pas tomber dans cette mare de boue dans laquelle, d'irrespect dans laquelle François Legault veut entraîner toute l'Assemblée nationale. Et c'est pour cette raison que je tiens à saluer la posture de Dominique Anglade, qui est une posture qui me rend moi très, très fier de pouvoir dire que je suis une collègue de Dominique Anglade comme chef du Parti libéral du Québec. C'est une posture de fierté et non pas de traîner l'autre adversaire dans la boue. Ce que François Legault oublie souvent, malheureusement.
Alors, je vais vous poser une question un peu difficile. Et quand on voit l'arrivée de Bernard qui est arrivé là comme futur candidat dans la circonscription de Lévis, Bernard Drainville, qui a quitté un poste de radio où il était très populaire il n'y a pas longtemps. Un sondage a montré que son émission était l'émission la plus populaire, hein, sur le 98.5. Hein. Et tout à coup, on le voit comme candidat dans la circonscription de Lévis pour remplacer le président de l'Assemblée nationale. Comment vous, comme opposition à l'Assemblée nationale, vous voyez l'arrivée de Bernard Drainville?
Mais écoutez, pour nous, Raymond, ça ne fait que confirmer. Vous voyez, l'arrivée de Bernard Drainville, on la pressentait depuis déjà quelques mois à la lumière de certains commentaires qu'il faisait comme commentateur à la radio. Et il n'était pas vraiment journaliste, il était plutôt commentateur politique. Donc, à la lumière de certains commentaires qu'il faisait, et certains collègues avaient même déjà prédit qu'il allait être candidat à la CAQ. Et puis, c'est ce qui est arrivé. Mais ça ne fait que confirmer. Ce que nous pensons toujours, c'est que François Legault, comme ancien péquiste, ancien ministre péquiste, voyant qu'il n'est pas arrivé à réaliser son rêve le plus cher, c'est-à-dire séparer le Québec du Canada, est en train tranquillement de mettre en place ce que peut-être plusieurs voient comme étant des conditions gagnantes pour un éventuel référendum. C'est un gouvernement de plus en plus où on voit le gouvernement de la CAQ qui est empêtré avec la part qu'il fait aux souverainistes. Il y a beaucoup d'indépendantistes. Bernard Drainville, rappelons-nous, c'est le père de cette fameuse charte des valeurs tant décriée pour son caractère injuste et irrespectueux de la tradition d'inclusion dans la société québécoise. C'est ce même Bernard Drainville-là qui s'en vient à la CAQ aujourd'hui. Alors, c'est à François Legault de s'expliquer, c'est à François Legault de se justifier. Est-ce que Bernard Drainville a renié sa charte des valeurs. Est-ce que Bernard Drinville va être celui qui sera le ministre qui sera là pour défendre la loi 21, qui est une loi injuste, ou la loi 96, qui est aussi une autre loi injuste, loi pour laquelle, rappelons les faits, et pour l'histoire, pour les gens qui nous écoutent, la CAQ et Québec solidaire ont voté pour la loi 96. Et nous, du Parti libéral du Québec, nous avons voté contre cette loi, parce que c'est une loi qui est injuste, non seulement pour les anglophones, mais aussi pour toutes les communautés immigrantes du Québec. Parce qu'il y a des éléments là-dedans qui sont des éléments injustes, et je trouve déplorable d'ailleurs qu'un parti comme Québec solidaire, qui se targue d'être un parti de justice, de solidarité, ait voté pour appuyer la loi 96. Ça, les gens doivent le savoir. Québec solidaire, ce n'est pas seulement la CAQ qui a voté pour la loi 96, Québec solidaire a voté pour la loi 96 aussi.
Ça a été un plaisir de vous avoir sur les ondes de votre radio CKUT. Bonne chance et à très prochainement.
Merci Raymond, bonne journée à toutes et à tous, à très bientôt. Merci.
Alors, c'est ça, Franz Benjamin, député de la circonscription de Viau que vous venez d'entendre. Il faut dire que nous avons des rendez-vous avec plusieurs invités que je n'arrive pas à joindre. C'est le cas pour Dr Harrison Ernest, qu'on n'arrive pas à trouver après plusieurs tentatives. Nous allons faire une petite pause, on va prendre une dernière chance. Alors, sur la crise haïtienne, si vous avez quelques commentaires, je vois qu'il y a plusieurs. plusieurs appels de la station qui sont rentrés, mais malheureusement, on ne peut pas prendre des appels au moment des entrevues. Alors c'est le moment, si vous avez des commentaires sur la crise haïtienne, vous pouvez toujours nous appeler, même numéro 514-48-93. Je salue la députée de Bourassa qui a sauvé le goal de Bourassa. Kembe la. Kembe la. Il y a l'autre bagaille qui est capable. Après, l'essayer, ouais, si on peut pas bouger. Sinon, on a chanté qui a plusieurs reprises, j'ai envoyé des messages également. Une petite pause. Nakuna.
Jésus, mais sous volant, Jésus, mais notre travail.
Alors, Jean, que nous t'ai annoncé là, nous avons des difficultés pour nous joindre avec Dr. Harrison Ernest depuis Haïti. Mais nous avons avec nous là, rendus habitués, Dr. Desrosiers et Dr. Thomas Lalim avec nous. Et messieurs, m'appelez-nous et bonjour, bienvenue sur les zones de sécurité.
Oui, bonjour Raymond Laurent, bonjour Dr. Lalim et bienvenue aux auditeurs.
Alors, bonjour Raymond, bonjour Docteur Desrosiers, bonjour à tous les auditeurs, toutes les auditrices de samedi midi inter.
Alors, et ça qui fait la manchette depuis une semaine et quelques jours, c'est l'article de New York Times, côté que la restitution de la dette envers Haïti, et ça qui a été fait nous payer. Et nous voyons que monde probablement, et pour des raisons que nous ne doit pas parler de lui, pour lui passer le fond pile mal dans le pays à tout, même là, il fait bien, parce que c'est lui qui est venu avec dossier ça, on a parlé de Jean-Bertrand Aristide. Nous voyons c'est ça qui fait la manchette. Il me tend régulièrement sur les zones de certaines stations. Et en Haïti, entre autres, dernièrement, nous avons entendu avec Liliane, en Radio Kiskeya. Et comment que nous sommes capables de traiter dossier ça, même si il fait la manchette depuis New York Times sorti avec dossier ça et Dr. Thomas Lalim comme économiste. Alors, on petit bouille en quelque part, je ne sais pas qui côté que lié. Alors, si nous sommes capables d'écarter nous, Dr. Lalim, n'attendons.
Effectivement, moi, j'ai fait plusieurs interventions sur la question. Depuis dossier en soutien pour plusieurs raisons. En fait, première raison, c'est que c'est une question qui intéresse depuis longtemps, pratiquement depuis 2008, le terme maîtrise en économie du développement, thématique ça a intéressé. Et puis, en 2014, moi sorti un livre qui est l'économie haïtienne, radiographie d'un désastre, moi était plus ou moins abordé question 1. Et puis, la troisième raison d'accepter tout, c'est le fait que moi, parmi 15 économistes et historiens, en fait, pas seulement ça, mais que New York Times cité dans le texte, que l'IDI lui demandait avec les fichiers de calcul pour actualisation d'être là. En fait, ça m'a l'actualisation rapidement. C'est que c'était 150 millions de francs or que la France était exigée. Mais en fait, il est vrai que nous n'avons pas remboursé exactement 150 millions parce que nous n'avons pas de possibilité de rembourser. Nous avons demandé des refinancements, nous avons sollicité plusieurs autres, deux autres prêts. Nous avons venu sur ça après. Mais l'idée, c'est. Montant ça, l'été équivaut à 3 années de production nationale en 1825, la France était exigée. Et, ou bien, si tu voulais parler dans le langage, je dis, on t'a dit 300% de produit intérieur brut Haïti. Donc, il y a deux façons que tu dois regarder. Question que tu dois regarder, sous près 3 années de production, je dis en 2022, on a fait exercice en 2020 avec Piketty, c'est combien la baille, il était bon moins à peu près 28 milliards de dollars américains. L'autre façon que doit regarder, c'est dit qui ça 150 millions de francs en 1825 représentait aujourd'hui? Ça, c'est calcul bah, qui fait, par exemple, l'opre hypothèque, par exemple, vous prêtez aujourd'hui 400 000 dollars ou 500 000 pour acheter un caille, vous avez fini payer caille là dans 25 ans, avec un taux d'intérêt de 4-5%, combien la baille dans 25 ans a fini payer? Donc, c'est à peu près le même raisonnement, ça. Ou qui doit faire tout pour dire combien comme 150 millions t'as représenté aujourd'hui. Et ensemble de approches, en fait, sous la deuxième approche, ça, l'Ibay, New York Times, yon montant, et sous la deuxième aspect, combien 300% PIB aujourd'hui t'as représenté, hein? C'est lui-même qui bat où, autour de 21 à 28 milliards de dollars américains. Mais quand il y a un problème qui vient de passer, et c'est ça, l'économie sur un coût d'opportunité, ou dit tout, sans juste considérer PIB aujourd'hui et pour multiplier par 3, ou sous-estimer capacité pays en tablier pour investir 150 millions ça dans construire infrastructure de décollage économique pendant la période. Ça. Et c'est ça qui fait le. Équipe New York Times qui a travaillé sur l'aspect ça, elle a considéré la question ça, elle a dit non, dans le cas ça, il faut considérer l'autre pays qui a à peu près même un niveau de richesse à Haïti, elle a considéré Colombie par exemple, on a parlé de 1825, ou bien elle a considéré un pays comme Costa Rica, elle a dit là ça, il faut considérer à peu près même tendance de croissance économique qui gagne dans le pays ça yo pour ta garder à quel niveau de PIB Haïti t'a abouti s'il t'est arrivé gagne montant ça pour t'investir dans construire ta structure de base et l'on fait raisonnement comme ça li ba un montant qui ca aller jusqu'à 115 milliards de dollars américains qui cité dans l'article là mais que en pile monde pas mentionné ou peut-être pas rien yo. Donc bon, me camper là pour entendre docteur Desrosiers puis on a abordé quelques autres aspects après.
Alors docteur Desrosiers, en fait me connais que ou en contact avec un monde probablement pour des raisons et personnelles qui pas capable participer dans l'émission hein, qui c'est yon moun que New York Times a été contacté ou même participé à l'élaboration de cet article sur la restitution de la dette haïtienne.
Je suis au téléphone. Écoutez, merci de me donner la parole. Je serai précis sur deux points. Le premier, c'est le retour de cette question très ancienne de la réparation au premier plan donc de l'actualité dans un contexte politique particulier. Le second point, c'est l'adoption par le gouverneur de Californie. Ça s'est fait mercredi dernier et je trouve la coïncidence tout à fait heureuse. Des recommandations préliminaires en vue d'une réparation attribué aux Noirs américains. La question de la réparation est donc à l'ordre du jour. Les recommandations sont donc sur Internet. Chacun peut consulter ce rapport de l'Assemblée constituante de Californie.